Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Heureux de vous retrouver tous les jours entre 10h30 et 12h30. Vous nous accompagnez de plus en plus nombreux chaque jour et vous appelez toujours plus nombreux chaque jour au 0826 300 300. Vous le savez, ici, vous êtes chez vous. Ensemble, nous vivons l'actualité. Parlons vrai pour savoir et comprendre. Pas de commentaires inutiles avec des invités sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Alors, quels sont les sujets que nous allons développer ce matin? Nous allons revenir, évidemment, sur les pompes à essence à sec. Dites-nous, avez-vous des difficultés pour faire le plein? La situation va-t-elle rapidement s'améliorer? Nous en parlerons 0826 300 300. La France va livrer de nouveaux canons César à l'Ukraine. Une arme efficace, ce canon César. Indispensable, disent les Ukrainiens. Une aide de 150€ par mois sera versée aux familles d'accueil des réfugiés ukrainiens. Une aide versée par l'État. Nous en parlons ce matin entre 10h30 et 11h. Et puis Annie Ernaux, un prix Nobel de littérature qui fait scandale. Enfin, entre midi 10 et midi 30, nous reviendrons sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui fait réagir. Je lis Jean-Luc Mélenchon. Le 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre, conclut Jean-Luc Mélenchon. Alors, évidemment, ça fait réagir. Le PS ne doit pas participer à la marche, dit Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans. Est-ce un appel à la violence sociale? Nous en parlerons. Mais que s'est-il passé? Mais que s'est-il passé les 5 et 6 octobre 1789? Nous ferons un peu d'histoire tout à l'heure, entre midi 10 et midi et demi, avec nous à 12h10, l'historien Claude Quettet. Et puis entre 11h et 12h, notre espace débat, vous le savez, comme tous les jours, Emmanuel Macron veut répartir les étrangers arrivant en France dans des espaces ruraux plutôt que dans les grandes villes. Quels sont les étrangers dont parle le président de la République? L'idée est-elle nouvelle? Est-ce une bonne idée? Départ, débat ouvert entre 11h et midi avec nos invités, puis vos appels au 0826 300 300. Vous voyez, les deux heures sont riches. Je vais commencer tout de suite avec Sébastien, puisque les auditeurs sont prioritaires. Vous êtes prioritaire dans mon émission. Sébastien est à Coudoux dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
On dit Coudoux ou Coudoux?
Coudou.
Coudou, voilà, tout simplement.
On peut dire les deux façons.
Sébastien, merci d'être avec nous sur Sud Radio, Sébastien. Je suis très, très heureux de vous recevoir. Allez-y.
Ben, en fait, donc, du coup, moi, je voulais réagir par rapport aux 150€ en disant que...
150€, donc, par mois versés par l'État pour les familles qui accueillent des réfugiés ukrainiens.
Ben déjà, moi, je voudrais saluer le geste parce que c'est déjà une aide substantielle. Après, je pense pas que les gens qui accueillent aujourd'hui des réfugiés ukrainiens aient attendu après quelques aides que ce soit. Aujourd'hui, nous, on a une ou deux familles qui ont été accueillies dans le village, et là, on a un des petits garçons qui a été intégré directement dans une section de petite classe là.
Oui.
C'est vrai que aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 150€ qui vont l'aider. Je pense que moi, j'aurais plus attendu peut-être que l'État aide un petit peu plus, par exemple, sur comment intégrer des gens qui parlent pas la même langue que nous, qui savent pas forcément parler anglais, pour les aider justement à mieux s'intégrer.
Oui.
Parce qu'effectivement, là, on est face. Je pense que la plus grosse difficulté, c'est peut-être le langage, en fait, la communication.
Bien sûr. Sébastien, vous connaissez la famille qui a accueilli les Ukrainiens?
Oui, alors ce sont des gens du village et qui ont eux-mêmes leurs enfants scolarisés dans le village.
D'accord. Et vous les connaissez bien, Sébastien. Et le village a bien accueilli la famille?
Oui, justement, parce que c'est grâce au village qu'on a pu intégrer justement les enfants en petite section pour qu'ils puissent démarrer leur vie scolaire malgré tout, malgré les événements et malgré l'éloignement de leur pays, quoi.
Bien.
Et ça, je trouve ça fabuleux.
Bon. Sébastien, merci. Coudou. Voilà. Dans les Bouches-du-Rhône, merci.
Avec grand plaisir, au revoir.
Jean-François est à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour tout le monde.
Oui, bonjour Jean-François. Merci
bonjour,
d'être là.
Bourdin.
Merci vraiment d'être là. Vous soutenez l'initiative du gouvernement d'aider financièrement les familles d'accueil?
Oui, je trouve que c'est pas assez. quand même, on ne peut pas nourrir une bouche avec 150 euros par mois.
Oui.
Si on fait l'inventaire, déjà le linge de maison, les draps, les serviettes, les lessives, puis alors, après il y a
vous,
3 repas par jour.
Vous dites 150 euros, ce n'est pas suffisant, si je comprends
non,
bien Jean-François.
Il faudrait le double.
Il faudrait le double.
Mais oui, le double déjà pour compenser le prix de revient d'une personne en charge à la maison. Il y a déjà 3 repas par jour. Donc, petit déjeuner, s'il y a des enfants, il faut le goûter.
Oui.
Et donc, bon, il y a oui. la quantité du midi, s'ils sont intégrés dans une école, mais s'ils sont pas à l'école, il y a quand même des repas.
Oui.
Et puis, bon, on ne parle pas d'argent de poche, on parle de venir amortir le prix de revient de l'hébergement.
Bien sûr. Bon, mais vous savez, Jean-François, bien souvent, les familles qui accueillent des réfugiés sont des familles qui le font... bénévolement, vous
oui,
savez,
oui.
Qui le font d'une manière oui. Charitable et fraternelle.
Chaleureuse, oui.
Chaleureuse.
Oui, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Vous me l'enlevez de la bouche, mais ils le font pas pour l'argent.
Oui.
Bon, c'est bien que l'État apporte une aide.
Oui.
Bon, c'est un avantage aujourd'hui. Qui va demander encore des aides avec d'autres réfugiés? On est aussi dans une vie sans fin. On démarre le début d'une vie sans fin.
Oui.
Ok, alors on verra bien. Si ça veut gérer le futur, parfait. Nous avons des politiques de haut niveau.
Oui.
Maintenant, est-ce que c'est pas de l'improvisation pour faire le flanc populaire français?
Bah, écoutez, Jean-François, il y a 100 000, à peu près 100 000 réfugiés ukrainiens en France, dont 12 000 enfants. Donc, ces 100 000 réfugiés sont accueillis ici et là. Hein. D'ailleurs, je lance un appel 0826-300-300. Si vous accueillez des réfugiés, vous nous dites. Bien, merci Jean-François, dans tous les cas. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, Jean-François.
Oui,
vous écoutez Sud Radio régulièrement?
Ah bon, oui, sur 102.
Bon, eh ben c'est génial.
Ça passe très bien, il n'y a pas de parasite, ça passe très bien.
Bon, ben écoutez, c'est parfait, alors à Pau, c'est parfait. Merci, je salue toute la ville de Pau et les environs. Bien, nous allons, il est quelle heure? 10h37, je vais appeler Olivier Deschner, qui est maire adjoint de Villennes-sur-Seine, dans les Yvelines. Olivier Deschner, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bon, vous êtes maire adjoint de Villennes-sur-Seine, c'est dans les Yvelines. Vous accueillez, il y a combien d'habitants à Villennes?
Oh, 5400 à l'heure actuelle à peu près.
5400, vous accueillez 4 familles d'Ukrainiens et 2 enfants sans scolariser, Olivier Deschner.
Oui, exactement. On accueille plusieurs familles ukrainiennes. C'est une vieille histoire, notre relation avec l'Ukraine, ça remonte à une trentaine d'années. On avait d'abord agi avec les Ukrainiens suite à Tchernobyl pour aider les hôpitaux à traiter les enfants qui avaient été blessés par cet accident. Et puis, à la suite de ça, on a gardé des liens culturels assez forts. Donc, à partir du 24 février, on n'a plus beaucoup dormi ici, parce qu'il y a des tas de liens qui se sont construits à travers les années. Et on a mobilisé le conseil municipal, et puis le village s'est mobilisé à l'unanimité pour mettre à la disposition de 2 familles ukrainiennes une maison communale. Et donc on a pu accueillir là des mamans avec leurs enfants venant d'Ukraine, choqués.
Ça se passe bien.
L'accueil, moi je suis fier de mon pays. Je suis fier de ce qui a été mis en place. J'ai fait le parcours à la préfecture avec les associations qui ont été désignées pour s'occuper de l'accueil des Ukrainiens sur le plan administratif. Ça, il y avait de la bienveillance, il y avait de l'efficacité. Et puis, le fait de donner une subvention de 400 euros par adulte, 100 euros par enfant, ça permet d'avoir un petit pécule qui permet de faire face avec l'aide que nous, par ailleurs, on fournit. La commune a décidé la gratuité de la restauration scolaire, la gratuité des études pour ces familles-là jusqu'à la fin de cette année, en attendant de savoir ce que le gouvernement décide pour la suite. Mais une belle œuvre collective.
Oui.
Et sur place, des familles qui réussissent à s'installer.
Alors je vais poser une question, la question qui fâche, Olivier Deschner. Si ces réfugiés étaient syriens ou iraniens, ça se passerait de la même manière, vous pensez?
J'ai commencé. Alors oui, bien sûr, on a accueilli ici une famille syrienne il y a quelques années déjà. Donc
oui,
bien sûr. Il est sûr que la c'est pour ça que je commençais mon propos en rappelant les liens culturels qui existaient entre nous. C'est sûr que ça facilite quand on a cette espèce de proximité-là. Mais pour autant, la générosité des habitants, la générosité des Français n'est pas mise en défaut. Au contraire, il y a un enthousiasme extraordinaire. J'ai vécu des moments formidables sur cet accueil-là.
Oui. Il n'y a pas de contestation, d'opposition à l'accueil de ces familles.
Non, pas du tout.
Vous n'en entendez pas, vous ne voyez pas. L'aide de l'État, hein, qui devrait concerner de 5 000 à 12 000 familles, couvrira la période du 1er avril au 31 décembre de cette année et sera versée sous réserve d'avoir accueilli pendant au moins 90 jours des bénéficiaires, des familles ukrainiennes. Voilà.
Oui, c'est très bien. La difficulté que nous on rencontre sur ce sujet, c'est qu'on a effectivement des familles qui ont un peu d'espace chez elles, qui peuvent éventuellement organiser de façon indépendante de leur propre vie de famille, parce que c'est important, quand ça doit durer, d'avoir une indépendance. La question qui se pose, c'est de savoir combien de temps ça va durer. C'est une question sur laquelle on n'a pas de réponse. Moi, j'ai peu de garanties à fournir sur le fait que les familles vont partir. Donc, on est en train d'organiser, nous, de notre côté, une association, et on souhaite que cette association puisse, en quelque sorte, cautionner les prêts qui peuvent être faits, les prêts de logement qui peuvent être faits par les uns ou les autres avec gentillesse, mais pour faire en sorte que pour eux ce soit plus facile.
Bien, merci beaucoup Olivier Deschner, fier de la France, vous dites, Olivier Deschner, je suis fier de mon pays. Merci Olivier Deschner. Alors, je sais que ça fait débat, évidemment que ça fait débat. Est-ce à l'État d'aider les familles ou est-ce que ça doit rester bénévole, ça doit rester de la charité, ça doit rester de la solidarité et de la fraternité? On en parle, 0826 300 300. Et puisqu'on parle d'immigrés, de réfugiés, de demandeurs d'asile, entre 11h et midi, j'ouvrirai le débat sur les propos d'Emmanuel Macron qui veut répartir les étrangers arrivant en France dans des espaces ruraux plutôt que dans les grandes villes. D'abord, quels sont les étrangers dont parle le président de la République? L'idée est-elle nouvelle? Est-ce une bonne idée? Nous débattrons. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, nous aurons plusieurs invités. Je voudrais en savoir un peu plus sur le canon César. Pourquoi? Parce que la France va livrer des canons César à l'Ukraine, de nouveaux canons César. Ce canon César, une arme redoutable que les Ukrainiens apprécient et demandent. Pourquoi? Nous allons tout savoir. Dans 2 minutes, 10h42, vous êtes sur Sud Radio. J'attends vos appels, évidemment, 0826 300 300.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, je le dis, vous êtes avec nous, 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio et je suis heureux d'accueillir Mohamed. Bonjour Mohamed.
Bonjour Monsieur Jean-Jacques Bourdin.
Comment allez-vous Mohamed?
Très très bien Monsieur Bourdin, je suis content de vous avoir au téléphone. Depuis que vous êtes parti de chez je ne sais plus où vous étiez, j'ai tombé
RMC,
par hasard.
RMC.
Voilà, depuis que vous êtes parti, et puis je ne sais plus où vous étiez, je suis tombé par hasard sur votre émission.
C'est vrai?
Je vous assure que c'est vrai. J'étais content, je suis tombé aujourd'hui, pour vous dire.
Aujourd'hui, vous êtes tombé sur l'émission. L'émission, dites-le autour de vous, c'est 10h30, midi et demi.
Eh bien, rassurez-vous, je vous fais l'appel pour vous, et puis on vous apprécie beaucoup.
Ben, merci beaucoup Mohamed, c'est très très gentil. Vous êtes commerçant, vous êtes dans les Yvelines.
Je suis
Mohamed.
Dans les Yvelines, oui, exactement.
Voilà. Et vous dites, ces 150 euros, c'est une super initiative de l'État.
Oui.
Vous seriez prêt, si vous aviez de la place, à accueillir une famille d'Ukrainiens?
Bien sûr, si j'avais de la place, malheureusement, comme je disais à j'ai pas de place pour les accueillir, mais je comprends ceux qui les accueillent, et puis même peut-être 150 euros... Comme disait l'auditeur précédent, c'est peut-être pas assez, c'est vrai, parce qu'avec le coût de la vie qui est augmenté,
bien sûr.
150, c'est peut-être pas assez, mais bon, c'est déjà une bonne chose déjà.
Une bonne chose. Est-ce que vous comprenez ce que je sais qu'il y en a, qui appellent au standard, qui disent l'État a autre chose à faire, a d'autres priorités?
Oui et non, mais de toute façon, les gens ils sont là, il faut bien les accueillir, et puis ceux qui les accueillent, il faut bien les aider aussi. Ça fait partie des choses à faire, je pense. Non, mais il faut. Si les initiatives sont prises, il faut.
L'accueil.
Je pense que l'accueil, il faut les accueillir, quoi qu'il arrive. De toute façon, ils sont là, il faut les accueillir, on ne peut pas les laisser comme bon. Ça, comme y a la guerre, ils sont fuis et il faut les accueillir. Bon. C'est ceux qui les accueillent, il faut, je pense qu'il faut les aider encore davantage, je pense.
Merci Mohamed, dans tous les cas.
Merci Jean-Jacques, maintenant vous avez un nouveau auditeur en plus. Voilà.
Eh ben, c'est génial, sur Sud Radio, 10h30, midi et demi, tous les jours.
Exactement, tous les jours.
Tous les jours, merci beaucoup Mohamed, merci.
Plaisir. Merci beaucoup. Merci.
Comme quoi il faut faire savoir que nous sommes sur Sud Radio, 0826 300 300, vous venez nous rejoindre, vous venez ici et vous êtes accueillis, évidemment, puisqu'on parle d'accueil, tiens. Pierre de Jong est avec nous, vice-président de l'Institut Témis, spécialiste de l'armement militaire. Pierre de Jong, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Pierre de Jong, merci d'être avec nous. Vous étiez colonel, vous connaissez l'armement. La France a déjà livré 18 canons César à l'Ukraine et pourrait bientôt lui en fournir 6 exemplaires supplémentaires qui devaient être destinés au Danemark, mais finalement qui iront à l'Ukraine. Mais j'ai vu les Ukrainiens, des déclarations ukrainiennes à propos de ces canons César. Ils sont efficaces apparemment, ces canons César, Pierre de Jong.
Écoutez, indéniablement, c'est probablement un des meilleurs canons du monde.
C'est un des meilleurs canons du monde.
Oui, absolument. Alors bien sûr, il n'est pas comparable avec l'HIMARS américain qui est un lance-roquette multiple, donc c'est plusieurs petits canons à un côté de l'autre qui tirent en même temps, mais le canon français, c'est probablement le meilleur canon du monde. D'ailleurs, on le vend actuellement dans le monde entier.
Mais qu'a-t-il de meilleur, ce canon ?
Il a deux capacités qui sont extraordinaires. La première, d'abord, c'est la portée et la précision. Puisque je prends un exemple, on prend un objectif X, on désigne l'objectif avec des coordonnées. Des coordonnées sont transmises automatiquement, si vous voulez, au camion, à l'engin, et vous avez un calculateur automatique. Et pendant que le camion roule, si vous voulez, le calculateur calcule les éléments de tir. Lorsque le camion s'arrête, le canon se met automatiquement en place pour tirer automatiquement sur l'objectif. Donc, ça veut dire qu'il est extrêmement rapide dans l'acquisition de l'objectif. Deux, il tire très très loin, entre 40 et 80 km. Et deux, la cadence de tir est très très importante. Et en finale, si vous voulez, on peut considérer que le tir peut commencer, en fait, globalement 2-3 minutes après la désignation de l'objectif. Dans les canons normaux, ça peut durer 5, 6, 10, 15 minutes, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette rapidité de traitement de l'objectif est sa qualité numéro 1. Au-delà de la mobilité, bien évidemment, parce qu'en plus, il est sur roue et il va très vite. C'est un camion qui monte à 100 km à l'heure.
Alors attendez, parce que c'est extraordinaire ce que vous nous racontez, Pierre de Jong. Si je comprends bien, c'est un canon sur roue, donc un camion, sur un camion.
Oui, bon, absolument, un
camion. Qui se déplace jusqu'à 100 km heure.
Oui, sur route normalement. Oui.
Sur route normalement. Il y a ce canon qui est monté sur ce camion. Ce canon, il peut tirer combien de munitions ?
Alors après, vous savez, on ne tire pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que le tir est repérable. Comme toute l'artillerie, vous avez une parabole, vous avez l'obus qui monte. Donc c'est repéré par des radars de détection ou d'acquisition. Oui. Donc en général, un canon comme ça, il va tirer 2, 3, 4 coups et hop, il part tout de suite. Il ne reste jamais. C'est pour ça que la mobilité est un critère.
Oui, c'est un critère essentiel.
Fondamental, donc ça protège le canon. Et c'est ça la force.
C'est ça la force, je comprends.
Qui est rapide, qui est mobile, et qui tire vite, et qui tire précisément. Vous vous rendez compte que l'erreur probable, si vous voulez, c'est gros 50 mètres à 40 km. Vous tirez un obus à 40 km, et il a une précision de l'ordre de 50 mètres.
À 40 km, ce canon a une précision de l'ordre de 50 mètres.
Oui, absolument.
Je comprends pourquoi il est considéré comme le meilleur canon du monde.
Oui, absolument. C'est indéniable.
C'est indéniable. Où est-il fabriqué ?
Il est fabriqué en France.
Oui.
Il est fabriqué en France, dans les usines françaises. Donc, il est vendu dans le monde entier maintenant. Je sais que même les Américains s'intéressent au canon. Alors, peut-être pour toute une série de raisons, mais c'est un canon qui intéresse le monde entier. On le vend au Maroc, dans les pays européens, on le vend partout.
Oui.
Malheureusement que la France en a très peu. On en avait à peu près 80, on en a donné beaucoup. Donc maintenant, il va falloir les reconstruire, parce que construire un canon comme ça, ça prend un certain temps. Vous avez une précision du tube qui est incroyable. Le tube, globalement, il fait déjà 2 tonnes.
2 tonnes, le tube ? Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Ça coûte combien, un tel canon ?
Alors, vous savez, le prix de l'armement est un secret que les sociétés gardent, on va dire, entre 4 et 5 millions d'euros.
Entre 4 et 5 millions d'euros ?
5 millions d'euros, oui, à peu près. Oui.
Un canon César.
Ce qui n'est pas monstrueux, si vous voulez, comme le prix des missiles, c'est pas, ça reste dans une norme acceptable.
Et la munition tirée, quel est le calibre?
Oui, alors c'est 155 mm, donc c'est le plus gros calibre qu'il puisse y avoir au monde, hein, c'est les plus, oui, plus gros. Et vous avez une munition qui peut tirer à 40 km ou 50 km, c'est la munition de base. Puis vous avez une munition qui donne une espèce de charge additionnelle et qui va propulser l'obus, si vous voulez, à une distance de 80 km. Là, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Ukrainiens réclamaient à corps et à cri de l'armement à longue distance. Et ça permet, en fait, de faire des tirs de contre-batterie contre les batteries russes. Parce que les batteries russes tiraient sur les Ukrainiens et les Ukrainiens avaient repéré, bien évidemment, les tirs.
L'origine du tir.
Les tirs russes. Mais ils n'arrivaient pas à faire des tirs de contre-batterie. Et grâce, oui, au César et bien évidemment grâce au matériel américain, avec l'IMAS, aujourd'hui ils arrivent à faire des tirs de contre-batterie. Et là, la puissance du César est exceptionnelle. Et donc vous avez une espèce de renversement du rapport de force qui est lié à l'usage de l'artillerie par les Ukrainiens.
On comprend mieux. Guillaume est avec nous à Carcassonne dans l'Aude. Bonjour Guillaume.
Bonjour Jean-Jacques.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire à Pierre de Jong? Dites-moi.
Ça m'étonne pas du tout, hein, parce que la puissance militaire française, elle est quand même très bien réputée.
Non, parce qu'on dit toujours la France, petit pays, mais là on a le meilleur canon du monde, hein, Guillaume.
On a toujours été une grande puissance militaire, mais c'était le cas avec les Charles Leclerc à l'époque. Hein,
oui.
On est très réputé, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis à la fois inquiet et puis entre nous en
fier et inquiet, quoi.
Inquiet parce que oui, on est en train de donner entre guillemets toute notre technologie militaire à un pays pour une guerre qui n'est pas la nôtre, parce que je le répète encore, cette guerre-là, c'est pas France contre Russie, hein, c'est États-Unis OTAN contre la Russie. Alors l'Ukraine est au milieu, mais bon, on l'aide avec nos armes, c'est une chose, donc on leur donne la technologie. Je crois qu'il y a des canons César qui sont fait saisir aussi par les Russes, qui sont déjà en train d'étudier la technologie, donc on va la perdre. Et
alors Pierre de Jong, est-ce qu'il y a un risque pour notre souveraineté militaire? Est-ce que les Russes sont en train de fabriquer des l'équivalent du canon César, Pierre de Jong?
Alors il y a une opération de désinformation qui s'est mise en place il y a quelques mois, où en fait les réseaux globalement ont accusé les Ukrainiens d'avoir vendu les premiers César qui avaient été livrés. Évidemment c'est archi faux, donc c'est n'importe quoi. Mais ceci étant dit, encore une fois, c'est une technologie qui peut éventuellement s'imiter, sauf le calculateur. Parce qu'il y a un point qui est central, c'est quoi? C'est que vous vous rendez compte que le sergent ou le lieutenant dans son camion, il reçoit un objectif, donc des coordonnées. Il les rentre sur une machine, à peu près 3 secondes, c'est comme une calculette, si vous voulez. L'engin, il roule pour se mettre en place, pour se positionner quelque part, et l'engin calcule automatiquement les coordonnées et met en place automatiquement le tube. Et cette technologie, si vous voulez, elle est à l'intérieur du système, donc c'est pas de mal à veille que les Russes vont pouvoir l'acquérir. Ah, maintenant, s'ils achètent des canons, ils sont leur bon, évidemment.
Oui. Et Guillaume, vous entendez le spécialiste quand même des questions militaires. Hein,
ah oui, non, mais tout à fait.
Spécialiste de l'armement militaire. Donc non, il dit les Russes ne sont pas prêts d'avoir des canons César. D'ailleurs, ni les Russes ni les autres, d'ailleurs, hein, entre parenthèses.
Non, mais bien sûr, mais est-ce qu'on fabrique ces canons César spécialement pour l'Ukraine, ou on est en train de donner ce qu'on a, nous, en stock? Parce qu'après, on va devenir quoi, nous, l'armée française?
Non, mais attendez, on en garde en stock. Là, je le disais, je vais vous dire, non, Guillaume, les six canons qu'on doit fournir, ce sont des canons qu'on devait fournir au Danemark. Et le Danemark a dit, livrez-les plutôt à l'Ukraine, voilà.
D'accord.
Alors, merci Guillaume, merci Pierre de Jong. Dans tous les cas, merci Guillaume d'intervenir. Pierre de Jong, c'était passionnant, hein. Merci à vous.
À bientôt, merci.
Merci beaucoup. Passionnant, j'apprends des choses. Vous savez, on est là aussi pour apprendre, hein. Et c'est ce que j'aime. 0826-300-300, on est là pour savoir. Je le dis toujours, savoir et comprendre. Bien, entre 11h et midi, nous allons revenir sur cette déclaration d'Emmanuel Macron qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il veut répartir les étrangers arrivés en France dans des espaces ruraux plutôt que dans les grandes villes. Alors, quels sont les étrangers dont parle le président de la République? L'idée est-elle nouvelle? Est-ce une bonne idée? 0826-300-300, vous nous dites, vous êtes avec nous, vous êtes bien, moi aussi, sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Voilà un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'ai choisi de reprendre ce sujet, mais après un certain temps pour que chacun s'apaise autour de ce sujet. Emmanuel Macron veut répartir les étrangers arrivant en France dans des espaces ruraux plutôt que dans les grandes villes, à la campagne plutôt qu'en ville. Bon, très bien, mais je me pose la question, est-ce une idée nouvelle? Est-ce que ça n'a pas déjà été appliqué? Et puis, est-ce une bonne idée? Vous y allez, 0826 300 300. Notre politique est absurde, dit Emmanuel Macron. Elle consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers les plus pauvres. Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Didier Lesky, qui est directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Emmanuel Marcadet, directeur de France Fraternité. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aussi, Gilles Platret, qui est maire de Chalon-sur-Saône, vice-président national des Républicains.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être là tous les trois. Nous allons parler de ce sujet librement, évidemment, comme on le fait ici. Et j'attends vos témoignages, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous êtes chez vous, vous le savez. Bien, alors, cette politique, notre politique d'immigration est absurde. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Elle est absurde, Didier Lesky?
Alors, ce qui est absurde, bien évidemment, c'est de continuer, comme il le dit, à avoir de l'accumulation de personnes en difficulté sociale dans des zones. Et moi, j'ai été préfet en Seine-Saint-Denis, oui, où on accumule les difficultés. Maintenant, la politique de répartition, elle ne peut se faire que pour des personnes qui ont un titre de séjour. Et il ne s'agit pas de répartir des personnes sans titre de séjour.
Oui, pas tous les étrangers.
Non, puisque le président de la République l'a dit lui-même, c'est, le, je dirais, la deuxième jambe d'une première jambe qui est importante, qui est la maîtrise des flux migratoires, avec en particulier la volonté de ramener ceux qui n'ont, chez eux, ceux qui n'ont pas vocation à rester en France.
Oui, c'est l'objectif d'ailleurs du futur projet de loi qui est en préparation. Gérald Darmanin en a déjà parlé. Il sera présenté en 2023 et sans doute à l'Assemblée nationale, débat à l'automne 2023, d'après le calendrier. Gilles Platret, c'est absurde? Notre politique d'immigration est absurde?
Non, mais ce qui est absurde, c'est que la politique d'immigration ait perdu le contrôle d'elle-même. Le sujet de la répartition peut se poser à un moment donné. D'ailleurs, on va en discuter dans cette émission. Je pense qu'il y a plein de fausses bonnes idées dans cette déclaration du président, mais au moins on peut en discuter. Est-ce qu'il faut que les immigrés aillent plus en milieu rural qu'en milieu urbain? Mais la vraie question que les Français se posent, c'est pas celle-ci. C'est quand est-ce qu'on va reprendre la maîtrise de nos flux migratoires? Et c'est ça qui me frappe, parce que finalement, ce débat enjambe la question de fond, qui est celle de la reprise de notre souveraineté en matière de politique migratoire. Et moi, je suis frappé par ça. On a l'impression que finalement, eh bien, tout se fait comme s'il ne fallait rien changer. On a un bond énorme en matière d'étrangers accueillis sur ce territoire depuis quelques années. On a des chiffres records d'année en année. Et cette question n'est pas posée. On se dit, mais finalement, c'est une donnée. Comment on les répartit au mieux? Moi, je pense que la vraie question...
Donc
même
vous dites,
si, je vais pas éluder votre question.
On accepte la venue des immigrés sans contrôle, c'est ce que vous dites.
Mais en tout cas,
après, on se pose la question de la répartition de ces immigrés. C'est
exactement
pensée.
Ça. Or, la première question à se poser, c'est d'abord celle de savoir si on est en capacité d'accueillir avant de savoir comment on les répartit. Et je pense que c'est ça la priorité.
Bien. Alors, Emmanuel Marcadet.
Oui, la première question à se poser, c'est peut-être déjà de qui on parle. On parle d'êtres humains. On parle d'êtres humains qui sont des réfugiés. Ce ne sont pas des immigrés, ce sont des gens qui ont obtenu une protection.
Réfugiés, demandeurs d'asile.
Protection de l'État français. Et puis après, comme ils ont sont des êtres humains, ils ont la capacité de se mouvoir où ils le veulent. En fait, ce ne sont pas des pions qui ont des places comme on veut. L'endroit, ce qu'il faut entendre par la répartition sur un territoire, c'est parce qu'on crée des centres provisoires d'hébergement pour les accompagner dans leur insertion et les accompagner. Et c'est de ça dont on parle. C'est où on positionne ces centres d'hébergement. Et durant cette émission, on pourra raconter comment, à France Fraternité, on profite de l'implantation de ces centres d'hébergement pour aider.
C'est pas toujours facile d'implanter des centres d'hébergement. Je vous dis ça parce que j'ai lu ce qui se passe à Saint-Lys. Mais à Saint-Lys, à côté de Toulouse, le maire qui est LFI, la France insoumise, dit très bien, moi je veux bien.
Parti socialiste, je
crois. Non, il est LFI.
Ah bon ?
Il est NUP. Et il dit, on veut, l'État veut absolument installer un tel centre sur ma commune, 10 000 habitants, la commune, 126 réfugiés, et moi je dis, pas plus de 80.
Mais.
Alors qu'il est LFI, il est NUP.
Oui, mais il faut monter la mayonnaise. S'il n'y a pas de formule magique, il faut faire en sorte que d'un côté, les populistes arrêtent de crier. ça va être la fin des habitants du territoire parce qu'il y a des étrangers qui vont arriver, et voir quel projet commun on peut construire. Une ville de 10 000 habitants, on n'est pas dans la ruralité, on n'est pas sur le projet.
On n'est pas dans la ruralité.
À France Fraternité, on a accueilli 80 personnes dans le centre provisoire d'hébergement dans une commune de 2 500 habitants sur une intercommunalité de 25 000 habitants. Voilà un petit peu l'échelle où on est, et on reproduit ce genre de situation, mais au final, on voit que ça apporte des solutions au territoire, ça apporte des solutions aux habitants.
Donc c'est efficace. Enfin, c'est efficace.
Ça peut l'être.
J'oublie l'aspect humanitaire. C'est efficace. C'est efficace parce que ça permet de repeupler. C'est efficace parce que ça permet de redonner vie à une école. C'est efficace parce que ça permet économiquement de développer un territoire qui se dépeuple.
C'est efficace parce que on ramène des travailleurs sociaux sur un territoire, parce que pour accompagner les réfugiés sur dans ces centres provisoires d'hébergement, on met des travailleurs sociaux. Ce sont les territoires ruraux, où il n'y a plus de travailleurs sociaux. J'ai tendance à dire, on sait ce qu'est un éducateur de rue, on n'a pas encore conçu l'éducateur de ruralité.
Oui,
et le fait d'amener des réfugiés sur des territoires ruraux, ce qui fait qu'on ramène des travailleurs sociaux sur un territoire qui, au final, et c'est ce qu'on fait dans nos tiers-lieux solidaires, on accompagne tout le monde. On n'accompagne pas que les réfugiés, mais aussi les gens d'ici.
Bien, 0826-300-300, bonne idée ou pas bonne idée. Didier Lesky, qu'est-ce que vous voulez ajouter?
Mais d'abord, il faut savoir précisément de quoi on parle en matière d'immigration. Je rappelle que le premier vecteur d'immigration en France, c'est l'immigration familiale, et qu'elle répond à des exigences d'abord humaines, c'est-à-dire les conjoints de Français, qui est la première cause d'immigration en France, et puis après, les conjoints de résidence. Ça fait à peu près 90 000 personnes par an. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, on a déjà l'expérience de la répartition, puisque
c'est pas nouveau, cette idée.
On le fait avec les demandeurs d'asile. Vous pourriez même dire...
Dans les années 70, 2000...
Mais vous pourriez même dire que après la guerre de 14-18, par exemple, eh bien, on manquait d'hommes, malheureusement, à cause de l'hécatombe de la guerre. Et il y a beaucoup d'étrangers qui sont arrivés en France, en particulier dans les zones rurales, en particulier là où on avait besoin de...
Mais là où il y avait de l'emploi.
De main-d'œuvre et de l'emploi. Et
après la guerre 14, il y avait de l'emploi.
Et je rajoute du reste...
C'est pas le cas aujourd'hui,
Je rajoute du reste que c'est un peu absurde. Parfois, je me pose la question, cette année, par exemple, l'OFI va faire venir 15 000 saisonniers du Maroc, si vous voulez. Alors, il y a un coût écologique, puisqu'on les fait venir en avion, et ils sont là pour justement... 15 000 saisonniers, justement, on va en faire venir 3 000 en Corse pour ramasser les clémentines. Je pense qu'on a justement des personnes, entre 40 000 l'année dernière, qui ont eu un statut de réfugié. Je pense qu'il y a des besoins, en particulier de main-d'œuvre dans les zones rurales, pour toute une série de métiers, et qu'il faut plutôt construire des parcours de personnes à qui on a donné un titre de séjour parce que justement ils étaient réfugiés, plutôt que d'avoir une politique qui, à mon sens, est assez absurde, hein, de ces va-et-vient. Je pense qu'il faut plutôt construire des parcours.
3 000 saisonniers en Corse pour ramasser,
Les clémentines. Voilà, pour ramasser clémentines. Et donc on est dans des choses qui sont parfois un peu étonnantes à comprendre. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit il faut maîtriser, et en même temps on a une pression constante en zone rurale d'employeurs.
Oui, donc c'est pas une si mauvaise idée, elle est pas si absurde.
Alors, présenté comme ça, c'est magnifique. C'est presque le paradis.
Le paradis qui suppose un accompagnement social.
Je dis ça avec un petit peu d'ironie et beaucoup de respect, parce que le débat le nécessite, et je vous l'accorde bien volontiers. Simplement, c'est une vision complètement tronquée, parce que oser prendre l'exemple des politiques migratoire conduite en France après la Grande Guerre, après la saignée de la Grande Guerre, dans une France qui était encore très largement rurale, c'est complètement décalé par rapport à la situation de la ruralité aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez pris le bon exemple, vous parlez de saisonniers. Mais lorsque vous aurez bénéficiaires du droit d'asile, vous n'allez pas leur dire, vous passez une saison et après, on fait quoi? Parce que les clémentines, ça ne se récolte pas toute l'année. Et c'est vrai aussi pour d'autres productions agricoles. Donc c'est la fausse bonne idée de dire, regardez, on manque de temps en temps de main-d'œuvre dans tel ou tel secteur et l'immigration va régler. Moi, je pense, et d'ailleurs, le président va même au-delà, puisqu'il parle de la tenue des écoles, des effectifs scolaire, comme si à chaque fois on allait trouver la solution miracle. Moi, je pense vraiment que, enfin, c'est une vision complètement technocratique, ce discours du président de la République. Si vous voulez, c'est un discours parisien qui consiste à dire, regardez, en fait, on connaît le problème, c'est l'Île-de-France qui est engorgée. Les gros problèmes d'accumulation de personnes venues de l'immigration régulière ou irrégulière se passent en Île-de-France, et il faut donc desserrer la contrainte.
C'est encore un regard centralisateur.
Ne cherchez pas autre chose, ce discours est liée à cette situation particulière à Paris et autour de Paris. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la campagne. Quand on amène des populations, d'abord, il faut que la population locale ait quand même un certain degré d'acceptation. Vous vous dites, voilà, vous avez, alors je sais, on va nous dire, vous êtes inhumain, etc.
Terminez, Gilles Patrick, je finis rapidement. Puis vous répondrez à Gilles
Patrick. Je finis rapidement. Oui. Donc, allez-y. D'abord, la plupart du temps, il n'y a pas l'accord local. Et ce sont des choses qui sont imposées. On l'a vu quand on a voulu décentraliser, éclater la jungle de Calais. Rappelez-vous, c'était François Hollande, 2015-2016. Non, mais attendez, rappelez-vous. Moi je peux vous citer des tas de villages où ce débat a eu lieu, précisément
parce qu'on expérience.
On ne peut pas, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. D'abord,
ça
n'a pas duré.
Été un sujet au moment des élections présidentielles de 2017.
Parce que les choses n'avaient pas tenu dans la durée, précisément. Si, vous savez très bien que ces villages, j'en ai aussi dans ma région, n'ont pas tenu, et donc on ne peut pas imposer. Ce que je regrette dans cette vision de M. Macron, c'est qu'on cherche à imposer à la ruralité une vision parisienne et technocratique.
Il s'agit de construire quelque chose qui est déjà en œuvre, puisque
pour construire, il faut être plusieurs.
Mais je vais vous donner un autre chiffre avant la publicité.
Ah oui.
Voilà. 20% des places d'accueil de demandeurs d'asile en France aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 20 000, sont situées dans des départements de moins de 400 000 habitants. Et l'expérience que nous avons sur la durée, c'est que les personnes qui sont dans ces centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui obtiennent le statut de réfugié, accèdent beaucoup plus rapidement à l'autonomie et s'insèrent beaucoup mieux dans les zones que ceux qui sont dans des zones de forte concentration urbaine.
Eh bien, nous allons soulever tous ces le débat est bien lancé. Il est passionnant. Hein. C'est bien parce que chacun échange ses points de vue, son point de vue. C'est ce que l'on souhaite sans se jeter à la figure. Ce que j'entends à l'Assemblée nationale, par exemple. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Au moins, essayons les nuances. Essayons de comprendre. Essayons d'accepter les arguments des autres. C'est l'art de la conversation. Il est 11h15, vous êtes sur Sud Radio 0826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, le débat est lancé, Emmanuel Macron veut répartir les étrangers arrivant en France dans des espaces ruraux plutôt que dans les grandes villes, à la campagne plutôt qu'en ville. Oui, d'accord, mais quels étrangers? Là, on n'a pas les précisions, hein, Didier Leschi.
Je crois que si la précision là, puisque dans le même discours, oui, le président de la République a dit qu'il fallait extrêmement ferme avec ceux qui sont clandestins, qui sont sans papiers, qui n'ont pas vocation à rester, et ceux que nous répartissons déjà, ce sont les demandeurs d'asile, et la question c'est de savoir si on peut avoir une répartition intelligente de la charge de l'accueil pour ceux qui obtiennent le statut de réfugié.
Nous allons prendre Jean-Luc, vous allez répondre. Jean-Luc est à Bergerac, en Dordogne. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Jean-Luc? Allez-y.
Ben écoutez, je voulais dire, si vous voulez, parce que c'est un sujet d'actualité, j'habite très très proche de Bergerac. Oui. Et il se trouve que sur Bergerac, il y a une société qui s'appelle la SNPE. SNPE, où ils fabriquent des munitions pour le César.
Oui, oui.
Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ça fait plus de 40 ans que j'habite en Dordogne. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. La poudrerie de Bergerac, à l'époque, ils étaient plus de 1000 personnes.
Oui.
Ils sont tombés à 200 ou 300 personnes. Il y avait des conserveries partout sur Bergerac. Il n'y en a plus qu'une qui travaille, d'une façon saisonnière.
Oui.
Donc je ne vois pas du tout comment on peut recevoir des immigrés qui ne viendraient finalement que pour des travaux de saisonniers, c'est-à-dire pour ramasser des pommes ou des fruits. Et qu'est-ce qu'on ferait de ces gens-là après? D'autant plus qu'on a déjà des gros soucis avec la communauté qui est implantée depuis de nombreuses années. Communauté qui évolue d'une façon surprenante. C'est une communauté qui est là depuis 3-4 générations et qui maintenant est voilée, maintenant ne s'intègre pas. Voilà, il faut dire les choses.
Oui, c'est-à-dire que les générations précédentes s'intégraient sans problème, les petits-enfants ou arrière-petits-enfants ont plus de difficultés et s'intègrent moins bien.
Ah, c'est tout à fait ça,
Mais oui, mais j'ai vu ça partout, hein. On voit ça partout, Didier Leschi, on voit ça partout.
Bien évidemment, on voit ça malheureusement dans beaucoup d'endroits. Je crois qu'il faut parler d'immigration au pluriel.
Oui.
Et toutes les immigrations ne posent pas les mêmes problèmes, et c'est vrai que nous avons des difficultés particulières avec une partie de l'immigration qui est culturellement influencée par des régressions de l'islam.
Il faut dire les choses, évidemment.
Il faut l'assumer et en avoir parfaitement conscience. Voilà. Et donc, je pense que ça fait partie des données. C'est pour ça que l'idée n'est pas de répartir comme ça,
à la va
comme je te pousse. Il s'agit de construire des parcours et de faire en sorte que les choses se passent au mieux, en particulier dans des zones, et c'est malheureusement pas le cas partout, mais il y a certaines zones où il y a un besoin de main-d'œuvre important dans des industries particulières ou dans industries
laitières.
Donc,
pas à Bergerac, dans tous les cas, où on n'a pas d'emploi à offrir. Hein, c'est ça, Jean-Luc. Hein.
Je pense qu'il faut corréler cette répartition
au besoin
d'emploi.
Oui, au besoin d'emploi.
Je pense que c'est un des facteurs, un des critères qui peut permettre d'améliorer la répartition et pas donner le sentiment que c'est une charge pour des zones où il y aura déjà des difficultés.
Est-ce qu'on doit dire non systématiquement, Gilles
Non, mais il ne s'agit pas d'être trop schématique. Je souscris complètement d'ailleurs à la nuance que vous venez d'apporter sur la capacité ou pas des populations à s'intégrer et à souhaiter cette intégration. En fait, l'intégration, elle ne peut pas être imposée. Elle est souhaitée ou elle est rejeté.
Non, c'est aussi le rôle de l'État d'accompagner cette intégration.
Je suis d'accord,
en mettant à disposition les services, en ouvrant les écoles.
Simplement, je dis ça, mais les écoles sont ouvertes. La vraie question, c'est
cantines.
Que ça ne suffit pas toujours, en l'occurrence, pour souhaiter que l'intégration soit souhaitée. Et c'est un vrai enjeu. C'est l'enjeu de la différence culturelle à un moment donné. Elle peut être enrichissante, je ne dis pas le contraire, mais quand elle est manipulée par des mouvements politiques qui s'appuient sur un acte de foi, notamment, c'est le principe même de l'islamisme qui prend la foi comme un vecteur de conquête politique, alors effectivement, ça n'est pas possible. Ça n'est pas plus possible d'ailleurs dans nos villes que dans nos campagnes. Mais la vraie question quand même, je voudrais poser par rapport à la déclaration du président, puisque c'est celle-ci que nous sommes en train de commenter.
Oui, bien
sûr.
J'ai
relu pendant notre pause de pub.
Oui.
Moi, je suis peut-être... j'arrive pas. Alors, je sais très bien qu'il y a toujours un certain brouillard dans ce que dit le président pour qu'on puisse comprendre parfois deux choses en même temps. Moi, je ne lis pas dans cette déclaration le fait qu'ils se sont engagés à ce que les demandeurs d'asile ne soient pas concerné par cette répartition dans le milieu rural. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir sur le territoire non seulement des gens qui ont obtenu l'asile, et ça c'est l'honneur de la France que de le leur donner lorsqu'ils sont en droit de le réclamer.
Pas
de problème là-dessus, nous ne remettons pas cette capacité, cet honneur de la France en jeu. En revanche, nous savons très bien aujourd'hui que la demande d'asile est une des filières principales d'immigration clandestine, puisqu'il suffit, venant du monde entier, d'en faire la demande, et qu'on sait très bien, hélas, le président l'a abordé, que dans 9 cas sur 10, le débouté ne sera pas reconduit dans son pays d'origine. Donc si ça doit aboutir à ce que précisément des déboutés soient placés de force dans des milieux ruraux qui, votre auditeur l'a dit, sont dépourvus d'emploi parce qu'ils ont déjà des difficultés à gérer, c'est pire que
alors, justement, Gilles Platré, nous avons au téléphone, vous allez pouvoir répondre, mais nous avons au téléphone Michel Fournier, qui est président des maires ruraux de France, maire de Lévoivre, dans les Vosges, c'est bien cela, hein. Michel Fournier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Lévoivre, hein ?
C'est bien ça, oui.
C'est bien ça. Michel Fournier, que dites-vous en entendant notre débat ? Quelle est votre position ? Vous représentez les maires ruraux de France.
Mais écoutez, les positions ne sont pas toutes semblables, hein,
oui,
c'est clair.
Oui, j'imagine.
Il faut l'imaginer comme cela. Mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose, parce que j'entends ce que vous évoquez et ce que chacun peut évoquer. Il est certain que ça peut poser quelques difficultés, mais il est certain aussi que ces immigrés, entre guillemets, qui sont en urbanité, posent aussi des difficultés. Ça, c'est clair. Donc, si ces difficultés, elles sont peut-être multipliées parce qu'il y a une concentration. Alors, cette potentialité qui a été annoncée, il faut qu'elle soit simplement accompagnée. Et c'est peut-être aussi l'occasion, puisqu'on a des besoins énormes dans nos secteurs, dans nos ruralités, on a des besoins de réhabilitation de beaucoup de maisons qui sont abandonnées pour X raisons. Ça veut dire que si on arrive, et je l'ai fait moi à titre personnel dans ma commune, si on arrive à intéresser des gens à devenir, en fait, à s'installer d'une façon plus définitive dans nos villages, en donnant quelques moyens, pas seulement des moyens financiers aux personnes, c'est pas ça, mais en donnant des moyens financiers aux collectivités pour faire en sorte que l'accueil soit le meilleur possible avec un accompagnement, alors pourquoi pas ? Il faut aussi savoir être ouvert, parce que finalement le problème il est là. Alors il faut à un moment donné être pragmatique et d'essayer de le traiter de la meilleure façon.
Comment faites-vous ? Vous avez accueilli des réfugiés dans votre commune ?
Ils n'étaient pas réfugiés au départ, d'accord, oui. Mais ils étaient, je me souviens de ma première famille que j'ai accueillie, qui s'appelait Boudjaja, donc on a compris, ça paraissait complètement, voilà, on n'avait jamais eu de gens d'origine musulmane dans le village. Eh bien finalement, avec l'accueil qui a été fait, avec l'accompagnement que l'on a fait au niveau de la municipalité et l'intérêt que ça a représenté pour la commune, parce qu'ils avaient des enfants de sauver l'école à l'époque, eh bien, je veux dire, ça a été accepté d'une façon, et pourtant...
Et aujourd'hui ?
Ah ben, aujourd'hui, ils ne sont plus dans la commune. Mais, je veux dire, je l'ai fait avec de nombreuses autres familles. Vous savez, des fois, dans un village, vous êtes étranger à partir de l'instant où vous n'êtes pas du village, ça commence comme ça, où vous n'êtes
ça,
pas
c'est
du
vrai.
Coin. Donc, je veux dire, voilà. Donc, cette notion d'être d'ailleurs, elle est toujours au départ, ça interpelle. Mais une fois que on la pratique intelligemment, eh bien, ça pose pas plus de problèmes. Parce qu'en fait, au départ, c'est quoi? C'est la crainte de voir des gens qui n'ont pas les mêmes habitudes que nous, quoi.
Oui, ni la même culture. Évidemment. Merci beaucoup, Michel Fournier. Merci. Réagir Emmanuel Marcadet.
Merci Michel Fournier d'avoir dit que celui qui est d'ailleurs, des fois, c'est celui qui ne serait-ce que de 50 km, 100 km, mais il n'a pas vécu et grandi sur le village. À France Fraternité, on a cet ADN de dire on lutte contre la concurrence des pauvretés et on ne regarde pas d'où vient la personne, on regarde quelle est sa difficulté. Et c'est vrai que sur les réfugiés, on peut avoir des difficultés d'insertion. Sur des demandeurs d'asile, je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas travailler aujourd'hui. Bien évidemment, les entreprises nous harcèlent pour les faire travailler, et bon nombre d'entreprises les font travailler, mais officiellement, ils n'ont pas le droit de travailler. Oui. Donc, une fois qu'on a fermé cette parenthèse, notre objectif à France Fraternité, c'est bien d'accompagner tous les gens d'un territoire qui soient venus d'ici, d'ailleurs, d'un peu plus loin. Et on se rend compte qu'en faisant du lien, en faisant du commun, que la grand-mère qui est esselée parce que ses enfants sont loin, parce qu'ils travaillent loin, elle n'a pas vu ses petits-enfants depuis très longtemps, de retrouver une vie autour d'un atelier cuisine, autour d'un atelier couture, à retisser des liens avec des gens, bah des fois qui viennent de très loin ou des gens d'à côté, ça permet de recréer du commun, parce que c'est ce que manque notre ruralité aujourd'hui. C'est qu'on a tous tendance à stigmatiser, à dire c'est celui-ci, c'est celui-là qui est la cause de nos difficultés. Mais au final, la cause de nos difficultés, c'est qu'on n'a pas tissé de lien, c'est qu'on n'a pas eu les besoins.
Didier Lesky a envie de s'exprimer, Gilles Platré aussi, je le sens, puis Marie nous appelle de Montauban, je vais prendre Marie, déjà à 11h29, ça passe très vite le temps, hein. 11h20, d'abord quand c'est passionnant, ça passe vite évidemment, 11h29, 0826 300 300, Marie nous appelle de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, allez, à tout de suite, nous sommes ensemble dans 3 minutes.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
33 0826 300 300. Prenons Marie qui appelle de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Marie.
Oui, bonjour à tous. Je voulais répondre. Donc,
allez-y.
Moi, je suis pas d'accord sur le flux migratoire à la campagne.
Oui.
Parce que moi, justement, je suis partie à la campagne pour la sécurité de mes enfants. J'habitais en Seine-Saint-Denis à Aulnay 3000. Ça commençait à devenir très craignos dans la cité, on va dire. On était tranquille, mais bon, voilà, il y a eu le flux migratoire qui est venu. Je suis partie à la campagne, j'ai fait construire un pavillon à la campagne pour la sécurité de mes enfants et puis de nous d'ailleurs, parce qu'on n'était pas vraiment en sécurité. Ils ont construit à la campagne où j'étais, ça s'est agrandi, ils ont construit des logements sociaux, ils ont rapatrié tous les gens qui venaient des 3000, donc ça nous a rattrapés. J'ai redéménagé et puis je suis repartie plus loin à la campagne parce que ça se passe mal, parce que les gens qui venaient avant, qui venaient avant en France c'était pour travailler. Déjà, ils ne portaient pas le voile, ils avaient le respect de la France, de les faire travailler, ils évoluent. C'était une évolution qui était, on allait manger de couscous chez eux, la plupart c'est des musulmans, donc aux 3000 c'est
oui.
Voilà.
Oui.
Et donc, c'est par rapport à ça. On était amis, tout ça, mais maintenant, ceux qui sont nés en France. Ils n'ont pas le respect de la France, ils n'ont pas le respect de la femme, ils n'ont aucun respect par rapport à la police, on n'a pas assez de prisons pour les mettre, ces multirécidivistes qui vendent de la drogue, et on veut construire des centres à la campagne. Et donc, on ne peut pas non plus récupérer toute la misère de la terre, parce que du temps de, en temps de guerre, nos grands-parents, ils se sont battus, ils ont souffert, ils sont restés en France, ils se sont cachés, ils ont, voilà, ils sont pas partis, ils ont pas migré partout, voilà. Donc pourquoi tous les pays qui sont des conflits, la France récupère tous les, voilà, ils nous ramènent des coutumes qui ne sont pas les nôtres, ils veulent nous les imposer. Moi j'ai peur pour mes petits enfants.
Voilà, je comprends, je comprends. Voilà. On comprend vos inquiétudes, Didier Lesky. Qu'avez-vous envie de répondre?
D'abord que je comprends ces inquiétudes et que je pense que toute politique aujourd'hui d'intégration passe par une lutte extrêmement ferme, en particulier contre le voile. Hein, ça a été l'objet de la loi de 2004. Partout où le voile s'est développé, eh bien la démocratie s'est affaissée et le statut des femmes a considérablement diminué. Et là, je dirais que dans le tragique, la bonne nouvelle, c'est ce qui est en train de se passer en Iran. C'est-à-dire que si les femmes gagnent, eh bien, on peut espérer qu'il y aura une onde de choc positive, hein, au moins à la hauteur de l'onde de choc négative.
Je rappelle, Didier Lesky, que vous êtes directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Et donc, je m'intéresse au problème d'intégration donc, qui voilà. ont des aspects internationaux très forts.
Voilà. Évidemment.
Ça, c'est la première chose. Et donc, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a une politique à avoir d'ensemble. C'est-à-dire, il faut être ferme, il faut reconduire ceux qui n'ont pas vocation à rester ici. Mais par ailleurs, je pense que l'expérience sur la longue durée nous montre d'abord que ce ne sont pas les dernières arrivants qui sont forcément les moins respectueux de ce que nous sommes. Et je disais tout à l'heure qu'il faut parler d'immigration au pluriel. Nous savons que nous n'avons pas les mêmes problèmes en fonction des parcours des uns et des autres. Nous avons par exemple accueilli beaucoup d'Iraniens au début des années 80. Ils n'ont jamais posé de problème parce qu'ils savaient parfaitement ce que c'était que l'islamisme. Nous avons une partie de notre jeunesse qui ne sait pas ce qu'est l'islamisme et qui a une vision qui est fausse, par exemple, du pays d'origine de leurs parents.
Oui. Dans lequel qu'ils ne connaissent pas.
Qu'ils ne connaissent pas et qui sont pour nous un problème parce que ce sont des pays où l'islamisme s'est particulièrement développé et il a des incidences et des effets ici négatifs. Une fois dit cela, je crois qu'il y a malgré tout la nécessité de penser une répartition de la charge de l'accueil. C'est pas simple. Elle doit être articulée et accompagnée, à mon avis, en fonction des besoins de l'emploi dans certains secteurs du pays et aussi en zone rurale. Je pense à l'ouest de la France où il y avait des besoins de main-d'œuvre particulièrement importants. Et c'est vrai que c'est plus facile quand il y a des familles.
Mais ça ne doit pas se faire de Paris, une manie française, sans concertation aucune.
Ça ne peut pas se faire. Et du reste, ça ne se fait pas sans concertation. Aujourd'hui,
je veux répondre que non. Parce qu'il n'y a pas de concertation aujourd'hui, y compris en milieu urbain. Je vous laisse finir, mais j'interviendrai dans votre accord.
Je vous dis, il y a plus de 200 centres d'accueil de demandeurs d'asile dans des départements de moins de 400 000 habitants. À chaque fois, il y a des discussions, hein, et il y a de l'acceptation, et je dirais de toute tendance politique. Et je crois que c'est pas un sujet de tendance politique. Et du reste, vous avez parlé tout à l'heure d'une commune où le maire, je crois, se dit de gauche. Hein, et qui refuse la mise en
Saint-Lys,
voilà, et qui refuse la mise en place, oui, justement d'un centre de préparation au retour, c'est-à-dire d'un endroit où les personnes sont censées rester entre 15 et 20 jours pour pouvoir après être reconduites dans leur pays d'origine. Ouais. Mais je suis très surpris justement parce que ce débat-là, il est d'une certaine manière un débat qui n'est pas exactement droite-gauche. C'est un débat entre ceux qui réfléchissent sur la nécessité de l'accueil et de comment véritablement organiser l'accueil et ceux qui pensent qu'on ne sera pas obligé d'organiser de manière un peu intelligente l'accueil, alors que quelles que soient les responsabilités politiques qu'ils ont eues dans le passé, eh bien, il y a toujours eu un minimum de flux à prendre en charge d'immigration.
Gilles Platret.
Bon, alors je suis en désaccord. Enfin, il y a des éléments de votre analyse que je trouve particulièrement objectifs, notamment sur le raidissement d'une certaine pratique religieuse qui aujourd'hui ne me paraît plus compatible avec les lois de la République et l'esprit même républicain français. Ça, c'est clair. Et vous avez raison de dire que heureusement que l'Iran nous ramène tout de même à des réalités et peut-être fera taire certaines ou certains qui faisaient ouvertement la promotion du voile en France, pensant que c'était une liberté. On voit bien que ça n'est pas une liberté, c'est une férule, c'est le moyen de la soumission de la femme. Donc j'espère au moins que l'actualité internationale va ouvrir les yeux de certains et de certaines. J'en suis pas complètement certain. En tout cas, on continuera ce combat. En revanche, je peux pas vous laisser dire que à chaque fois que on implante des personnes, notamment des demandeurs d'asile, des réfugiés, même s'ils n'ont pas encore, parce que c'est encore, on revient sur notre sujet tout à l'heure, qui n'ont pas tous le statut, parce que bien peu l'auront en réalité par rapport au nombre de demandeurs. Vous le savez très bien, le statut de réfugié est accordé d'une façon faible par rapport à la masse de ceux qui réclament l'asile en France. Mais en tout cas, je ne peux pas vous laisser dire que dans les communes, nous soyons associés. Moi, je peux vous donner modestement l'exemple de la mienne, ça n'est pas un milieu rural, c'est 47 000 habitants, mais où
Chalon-sur-Saône,
en Bourgogne, mais nous avons aujourd'hui ouvertement des populations qui arrivent, mais jamais, jamais la mairie n'est consultée par l'État, ni même informée de ce qui se passe. Je vous le dis comme ça se passe, je pense que d'autres maires pourraient corroborer ce sentiment, parce que c'est pas un sentiment isolé. Donc c'est important ce sujet-là, c'est pas parce qu'on va absolument tout savoir, c'est que si vous voulez à un moment donné que la politique conduite soit acceptée par la population, il faut qu'il y ait un débat préalable. Si vous l'imposez, eh bien vous avez ce sentiment qu'a eu notre auditrice tout à l'heure, qui a très bien résumé les choses, ce sentiment de ne plus être chez elle et de devoir quitter l'endroit où elle habite parce qu'elle s'y sent comme étrangère. On ne peut pas accepter ça. Donc je crois qu'il faut revenir d'abord à un contrôle migratoire sévère, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, à des reconduites à la frontière dès lors que le demandeur d'asile est débouté, ce qui n'est pas le cas en France. Vous avez 9 chances sur 10 en étant débouté de ne pas être reconduit dans votre pays d'origine aujourd'hui, et c'est bien là le fond du problème, et ensuite une acceptation locale par un débat qui souvent n'a pas lieu.
Bien, oui, Emmanuel Marquet. Oui, c'est important en effet de rappeler que qui sont ces gens? Les derniers arrivants qui viennent d'avoir leur statut, ben ceux-là, moi, je les rencontre, je les accompagne, et ils sont heureux qu'on leur propose une école rurale pour leurs enfants, parce qu'ils me disent, pour la première fois, mes enfants vivent une école française, parce qu'avant, en effet, ils étaient accueillis dans des espaces plutôt du type de la Seine-Saint-Denis, que décrivait Marie, et là, ben excusez-moi, mais on a abandonné la deuxième génération d'immigrés en ghettoisant, et de fait, c'est vrai que les lois de la laïcité, la France n'a plus vraiment sa place, et c'est ça qui est fort dommage. Et les derniers arrivants, quand on les installe dans ces espaces-là, disent eux-mêmes, c'est pas ça la France. Et donc ils sont d'accord avec Marie, et ils font bien attention, et ils découvrent une autre ruralité. C'est vrai que quand ils ont fait leur voyage, qu'ils ont traversé la planète, pour fuir la mort, tout simplement, et qu'ils arrivent chez nous, ils voyaient Paris. Et quand ils arrivent, ils voient Paris et ils se concentrent à Paris. Et que les travailleurs sociaux ont un immense travail à faire pour leur expliquer qu'il y a d'autres endroits en France. Quand ils sont réfugiés, ils ont le droit de se mouvoir à leur guise. Nous, on fait le travail, en effet, pour les guider vers d'autres, pour les guider vers la province. Et quand vous dites à Chalon, on en voit arriver, mais en fait, c'est parce que ce sont des femmes et des hommes libres qui choisissent d'habiter à tel endroit.
Ce sont des demandeurs.
Après, quand ce sont des centres d'accueil.
Oui, mais bien sûr, ce sont des demandeurs. D'accueil. C'est pour ça. Donc on est toujours sur cette ambiguïté de la déclaration du président. Est-ce qu'on parle bien de ceux qui ont obtenu le statut de réfugié ou est-ce qu'on demande ceux qui le demandent? C'est complètement différent.
Et
quand on a obtenu le statut, effectivement,
et séparons-les des enfants qui sont là depuis deux générations, qui sont un petit peu perdus.
Mais là, on parle bien de ceux qui viennent d'arriver.
Marie parle de tous ces enfants-là.
Oui.
Mais des fois, des enfants de la France.
Le problème, c'est qu'évidemment, il y a confusion. Il y a mélange, évidemment. Les premiers réfugiés
c'est ça qui est dramatique.
Sont arrivés
la
en
confusion.
France parce que dans les années 60, parce qu'on avait besoin d'eux, on a fait venir beaucoup d'immigrés. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'eux pour des raisons économiques.
Pour le travail, bien sûr.
Disons clairement les choses. On les a entassés dans des bars d'immeubles.
Oui.
Ensuite, il y a eu la génération. Enfin, vous connaissez ça.
Et oui, les bars d'immeubles, c'était un progrès dans les 70.
Je ne dis pas les difficultés. D'abord, c'est vrai qu'on a eu des vagues d'immigration qui étaient différentes jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. On avait majoritairement des personnes qui venaient du sud de l'Europe, plus des Algériens qui sont devenus de manière de plus en plus importante à partir de 1962. Mais c'est vrai que ça ne posait pas les mêmes problèmes, ou disons qu'il y avait des problèmes, mais que la situation de travail aidait à l'intégration.
Évidemment.
Et c'est pour ça que moi, dans cette discussion, je pense que l'intelligence, c'est de lier cette répartition La question du travail. Par ailleurs, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, nous avons déjà une répartition.
Mais c'est un statut, le travail, en plus.
Oui, bien sûr, c'est un statut.
Et c'est un statut.
Je pense et je plaide auprès de mes autorités, du reste, pour qu'on renoue, d'une certaine manière, avec le travailleur immigré. C'est-à-dire que là où on envoie des gens, ou là où il y a des gens qui sont déjà demandeurs d'asile, dont on sait qu'ils vont obtenir le statut de réfugié, eh bien, je pense qu'il faut les mettre en formation dans des métiers qui sont aujourd'hui en tension et pour lesquels on a des besoins de main-d'œuvre, parce que on est dans une contradiction du débat public. J'entends régulièrement des responsables du MEDEF qui nous disent « Ah bah oui, on n'a pas suffisamment de gens pour travailler. » Bon, eh bah oui, il y a un problème. J'entends des responsables agricoles qui disent « Bah oui, il nous faut des bras. » Et je rappelle que pendant la période du Covid, les flux étaient complètement taris, on a dit « On va essayer de voir si on peut trouver dans la population française des gens pour faire du travail agricole. » On les a pas trouvés et on sait que dans ceux qui viennent et qui obtiennent le statut de réfugié, il y a beaucoup de gens, de jeunes volontaires. Je pense par exemple au maraîchage en Loire-Atlantique, où on a des réfugiés qui ont été embauchés par des maraîchers. Je pense à d'autres zones. Et donc, il faut une politique intelligente. Maintenant, il faut être très clair. Tout ça n'est pas simple. Et il y a effectivement, il ne faut pas le nier, deux problèmes. Le premier, c'est qu'il faut augmenter les reconduites. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et ça suppose pas simplement un encadrement juridique.
Sans mais alors, comment est-ce qu'on arrive remonter le nombre de conduites, de reconduites?
Ça suppose aussi une discussion de plus en plus ferme avec des pays d'origine qui ne reprennent pas leurs ressortissants une fois qu'ils ont été déboutés. Je rappelle que le président de la République a été le premier à mettre en cause la politique de délivrance des visas, de la réduire drastiquement en disant, il y a quelque chose qui ne se fait pas.
Mais il faut aller plus loin.
Oui, et pourquoi les visas? Parce que l'expérience des régularisations précédentes, eh bien, quand on analysait les dossiers, on s'est aperçu que le premier vecteur d'immigration clandestine, c'était très souvent le visa de court séjour. Donc il y a quelque chose qui est en lien, et si on veut avoir une politique vertueuse en la matière, eh bien, il faut avoir une discussion ferme avec certains pays d'origine. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut construire localement l'emploi, la formation, le logement, et ne pas mettre les choses comme ça sur la table de manière brutale.
On va finir le débat avec Bernard qui va intervenir aussi.
Je rejoins la position
de Gilles Platon.
Mais le débat nous a permis d'avancer.
Nous avançons, nous débattons chacun avec sa vision des choses, mais c'est l'essentiel, c'est ce qui compte. Il est 11h47, vous êtes sur Sud Radio. Merci, 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est midi moins 10, la discussion pendant la page de pub était absolument passionnante. Vous me disiez, attention, parce que le problème aujourd'hui, ce ne sont pas les réfugiés qui arrivent aujourd'hui, le problème, ce sont les enfants de ceux qui sont arrivés, ou les petits-enfants de ceux qui sont arrivés dans les années 60. C'est cela, Didier Lesky. Et qui sont pour beaucoup embarqués par l'islamisme politique.
Malheureusement, on a une partie de notre jeunesse qui a été, aspirée par le soleil noir du djihadisme, et c'est un drame collectif. D'abord, c'est un drame pour eux parce que une partie d'entre eux est allée mourir bêtement sur des théâtres d'opération, et c'est un drame collectif parce que c'est un échec, mais qui est un échec qu'on peut comprendre parce qu'il est à la conjonction de deux choses. Sans doute la désindustrialisation a pesé beaucoup avec la destruction des organismes, du christianisme social, des organisations syndicales, des partis politiques qui, à l'époque, pendant très longtemps, ont tenu sur des questions de laïcité des positions beaucoup plus fermes sans doute qu'aujourd'hui. Et la deuxième chose, et c'est pour ça que c'est pas simplement l'État qui est fautif ou notre collectivité, c'est la pression internationale l'islam radical, et qui a dans ce vide qui a été créé par la disparition, je dirais, des autres, qui a investi le secteur.
Ça entraîne évidemment ce que les habitants des zones rurales voient dans les villes, ils ne veulent pas le vivre dans leur pays.
Et non seulement, je comprends tout à fait qu'ils ne veulent pas le vivre dans leur pays, et c'est pour ça qu'il faut avoir sur ces choses-là un discours particulièrement ferme. Mais de manière collective, et je crois que c'est ce qu'a essayé de dire le président de la République, on n'a pas intérêt à la constitution de ghettos de plus en plus fermés, il faut casser cela. Voilà, casser cela, ça suppose que ceux que nous avons acceptés, nous puissions intelligemment les mettre dans des endroits où on puisse leur faire échapper pour cette partie de l'immigration, parce que toutes les immigrations ne posent pas de problème.
Attendez, mais ce sont
échapper à cette pression.
Pardon,
de
l'islamisme
radical.
Là, on parle
de
ceux qui sont les jeunes là, qui sont islamisés. Pardon, mais ce sont des Français.
Oui, bien sûr.
Ce ne sont pas des immigrés.
Bien sûr.
Ce sont des enfants, d'immigrés
ou petits enfants.
Et c'est pour ça que moi j'ai l'expérience de jeunes qui viennent d'ailleurs et qui du coup sont. Peuvent dire à ceux qui sont ici, attention, vous vous tromperez complètement sur ce que
donc,
sur
ce à celui qui vient d'ailleurs a un rôle à jouer.
Celui qui vient d'ailleurs, je pense qu'il y a une partie de ceux qui viennent d'ailleurs
qui
ont un rôle à jouer et qui est le rôle de dire attention, ce que j'ai fui, je ne veux pas l'avoir ici. Et par exemple, ça a été le cas dans les années 90 de beaucoup de femmes algériennes qui sont arrivées ici et qui ont été les premières à dire attention, il faut être particulièrement ferme sur la question du voile quand il a commencé à apparaître, parce que si vous n'êtes pas ferme aujourd'hui, demain vous aurez des difficultés.
Gilles
et donc,
Plâtrer.
On a un jeu.
Je pense, enfin, le débat nous a quand même permis d'arriver sur un des nœuds, en réalité, de l'acceptation ou pas de l'immigration, et d'une façon générale de l'étranger. J'élargis notre débat. La France est un pays qui a, dans son histoire, beaucoup accueilli. Alors, avec plus ou moins de bonheur, parce que faut pas qu'on schématise trop, c'est pas parce que l'immigration est européenne que spontanément elle était accueillie avec des brassées de fleurs.
Ben aujourd'hui, les lourd. Ukrainiens sont très bien accueillis.
Je suis bien d'accord, mais on se rappelle aussi des combats de quartier entre les Italiens qu'on appelait les Rital, etc., les Polonais. Mais ils sont tous arrivés à s'intégrer parfaitement parce que la société a accepté aussi. Aujourd'hui, la grande donnée qui bouscule ce schéma-là, c'est précisément le raidissement d'une pratique religieuse et ce qui, pour moi, et sa prise en otage par une conquête, par un projet de conquête politique mené par les salafistes, par les frères musulmans, bref, l'islamisme pour aller vite. Et si on ne traite pas ce problème-là, on ne réglera jamais le problème de l'acceptabilité. Enfin, je vous rejoins complètement là-dessus. Et vous avez raison de dire que ces aspirants à la liberté, celles et ceux qui méritent le droit d'asile, qui se tournent vers la France comme le pays de la liberté pour réclamer sa protection, voient dans notre pays ceux qui y ont renoncé, qui soumettent la femme au diktat du père et du mari, et qui finalement sont aux antipodes de ce rêve de liberté qu'eux-mêmes ils partagent avec nous. Donc ça veut bien dire que le problème fondamental de l'immigration, ce sera d'arriver à traiter en France la lutte, les moyens de lutte et d'éradication de l'islamisme. Et ça passe par des mesures fortes, on n'a pas le temps d'en discuter là. Je pense que la question du voile est posée pas simplement dans les services publics, elle est posée dans tout l'espace public. Et ça, il faudra à un moment donné qu'on la pose, sinon on ne réglera aucun des problèmes.
Emmanuel Marcadet, je prends Bernard très vite.
Le voile est la partie visible de l'iceberg. L'enjeu, c'est que les premières immigrations, il y avait des mouvements, des initiatives, des associations qui travaillaient sur le lien populaire, la laïcité, le pacte républicain. Aujourd'hui, si les politiques islamistes arrive à s'implanter, c'est qu'en face, qui sont les politiques qui sont dans les quartiers? Quels sont les mouvements associatifs qui sont présents? Il y a beaucoup de vide. L'enjeu à France Fraternité, quand on travaille sur l'accueil de réfugiés, c'est quand on dit accompagner les gens d'ici en même temps, c'est qu'on rencontre des gens qui sont aussi en grande souffrance, aussi en grande difficulté, qui ne l'expriment pas forcément, parce que les gens d'ici ont tendance à dire on n'est pas des cassos, on n'a pas besoin d'aide. Et de voir, en revanche, les autres demander de l'aide. Il faut réconcilier tous ces gens, les faire vivre ensemble et faire du commun. C'est l'un des enjeux principaux. Et pour ça, il faut que le politique soit présent, pas sous forme de policier, parce qu'aujourd'hui, on en est là, on descend avec les gendarmes, et encore les gendarmes
pas
et
sous
les pompiers
forme d'invective,
ont du mal à rentrer.
Il faut
et
les
c'est
deux.
Compliqué.
Il faut les deux.
Il faut
la force et la sécurité.
Il faut que tous les acteurs publics y soient.
Non, mais...
Il faut que l'ensemble des acteurs soient présents dans ces espaces où on a une population qui est perdue et qui est abandonnée à d'autres qui prennent la place.
Bien, je vais arrêter là malheureusement notre débat. Je prendrai Bernard tout à l'heure après les informations de midi parce qu'il est déjà 11h57. Je voulais vous remercier tous les trois d'être venus nous voir pour parler d'un sujet qui divise mais qui mérite réflexion. Merci d'avoir réfléchi avec nous. Et merci d'être intervenu 11h57. Allez, un peu d'infos et ensuite on passe à autre chose.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Marche contre la vie chère le 16 octobre prochain à l'appel de tous les partis de gauche. Mais hier, un tweet de Jean-Luc Mélenchon a fait polémique et il fait polémique, il continue d'ailleurs. Le leader de la France Insoumise a fait référence à la révolution. Nous allons y revenir dans un instant avec nos invités. J'appellerai Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans, et puis Claude Quettel, l'historien. Mais je voudrais finir le débat précédent avec Bernard, qui est à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Merci Bernard. Qu'est-ce que...
J'ai pas roté qu'à la demi-heure. Hein.
Mais je sais Bernard, je sais, mais il y a tellement d'appels que malheureusement. Mais j'ai quand même tenu à vous prendre, hein Bernard, vous avez vu.
Ah mais
hein.
Non, mais c'est très gentil, on a déjà parlé ensemble en 2009 sur RMC.
Ah, c'est... Ah bah Bernard, 2009 sur RMC, bah dites-moi, ça nous rajeunit pas ça. Hein.
Voilà.
Bon, non, allez-y
moi,
Bernard.
Franchement, je sursautais sur mon fauteuil ou sur mon siège, oui. Je mouillais parce que vous avez autour de vous des gens qui se font plaisir, qui font trop de philosophie avec des. On sait que la France est number one dans la philosophie, mais actuellement on n'a plus besoin de ces gens qui font de la philosophie. Moi j'ai entendu du Yaka Faucon pendant une demi-heure, et ainsi de suite, voilà. Alors juste pour faire un petit rappel de ce qu'on entend un peu dans l'actualité, parce qu'il faut vivre avec
allez-y,
notre
Bernard,
actualité.
Allez-y.
On entend, voilà, ça vient de revenir. La balance commerciale est déplorable ces derniers trois mois. Je parle de la France. Hein. Et de l'autre côté, ben, on se dépossède de plein de choses, par exemple des armes militaires, ainsi de suite.
Non.
Donc je veux dire tout ça.
Bernard, c'est faux.
Au-dessus de nos moyens. Moi, je vous dis franchement.
Sur les armes militaires, c'est faux. Justement, la France est un petit donateur d'armes militaires à l'Ukraine et les six canons César, je voudrais le préciser, le rappeler, que l'on va livrer à l'Ukraine sont des canons qu'on devait livrer au Danemark. Donc, voilà Bernard. Bon.
Oui, mais on livre. Excusez-moi, vous êtes journaliste.
Mais on livre, mais Bernard, pardon, ces canons étaient achetés par le Danemark, donc on devait livrer à l'étranger, au Danemark. Le Danemark a dit, ces canons, on va les livrer à l'Ukraine, on les offre à l'Ukraine. Donc voilà, Bernard. Allô ? Ben voilà. Où il est passé ? Oui, où êtes-vous, Bernard ?
Je suis là.
Ah, ben je vous écoute.
Ben oui, mais moi, je vous...
Allez-y, finissez, finissez. Finissez.
D'après ce que vous dites, c'est le Danemark qui les offre, c'est pas la France. Donc, on a été rémunéré par le Danemark. Mais c'est pas pareil, tout ça, vous voyez. Faites tout ça, de toute façon. Oui. Ce sont des imbroglions, on raconte ce qu'on veut. Alors, moi, je voulais revenir au sujet important.
Oui, alors, allez-y.
Yaka Faucon, on n'arrête pas de parler des étrangers, ainsi de suite. Déjà, moi, j'estime, quand on fait un projet, moi, j'étais directeur de station de ski. Donc, quand on fait un projet, eh bien, déjà, on le prend par la base. Pourquoi, comment, quels sont les moyens, on chiffre et on met des bases solides. Nous, on fait tout à l'envers en France. On va envoyer des pauvres gens dans les villages. Moi, je vous dis franchement, vous avez, je pense que vous êtes plus âgé que moi, j'ai 71 ans. Hein. Mais ça va finir mal dans les villages parce qu'il y aura des phénomènes de rejet. Donc, j'aimerais apporter quand même un témoignage.
Moi, très vite, Bernard, allez-y.
La région où j'habite. Je vais souvent au pas de la case. Moi, bon, j'y vais en moto quand il fait beau. Et là, je vois il y a des gros chantiers énormes sous la chaleur de l'été, tout ça, dans des falaises, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on voit? Que des immigrés. Oui. Moi, je me suis arrêté la dernière fois, leur amené un pack de bière. Ils étaient contents. Oui. J'ai parlé un peu avec eux. Oui. Et voilà. Donc, c'est des gens-là. Donc, il faut commencer, quand je parle de la base, à remettre les Français au travail.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et ça, ces gens-là, j'aurais voulu leur mettre devant le fait accompli tout à l'heure, Jacques, que vous avez à côté de vous. Ce sont des Yaka Faucon. Il faut qu'ils enseignent dans les universités à faire de la philo. Et on n'arrête pas de faire de la philo et de tourner autour des problèmes. Moi, j'écoute l'actualité tous les jours. Je vous suis à vous. Je lis beaucoup. En plus, j'écris des chansons, vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez ce que je fais. J'ai écrit « J'aime mon boulot », un super morceau. Oui, oui, vous allez sur YouTube, vous irez voir ce que je fais.
Mais c'est donc, génial, Bernard.
Je le clame et je le chante. Mais voilà, moi j'ai travaillé.
Vous avez raison de valoriser le travail. Là, Bernard, on est tellement d'accord. Merci, Bernard. D'être avec nous ce matin, 12h12. Allez, petite pub et j'accueille le maire Stéphane Le Foll, le maire PS du Mans. À tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est midi et quart, la France Insoumise, le Parti Socialiste Europe Écologie Les Verts appelle à une marche contre la vie chère le dimanche 16 octobre dans plusieurs villes de France. Hier, Jean-Luc Mélenchon a tweeté et ce tweet fait polémique. Je lis. Les 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Voilà ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Alors évidemment, ça a fait réagir. Mais Manon Aubry, qui est eurodéputée de la France Insoumise, estime que c'est l'esprit de la Révolution qui compte et non pas ses modalités d'action. Écoutons-la interrogée par Félix Mathieu.
C'est pas des moyens de la révolution dont il faut faire état maintenant. C'est plus à l'époque, en 1789, vous aviez par exemple le tiers état qui ne voulait plus payer la dîme pour la noblesse. Bah, aujourd'hui, on a une grande partie de la population française qui paye pour une toute petite minorité de la population qui s'enrichit. Prenez par exemple les plus de 2 milliards d'euros que Total va verser en dividendes à ses actionnaires.
Voilà, Manon Aubry, Stéphane Le Foll, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, maire socialiste du Mans, ancien ministre, ancien porte-parole du gouvernement sous François Hollande. Stéphane Le Foll, c'est une provocation selon vous de la part de Jean-Luc Mélenchon ?
Non, d'ailleurs Manon Aubry là, vient de le confirmer, c'est une référence pour Jean-Luc Mélenchon. Il est dans un état d'esprit révolutionnaire. Le problème, c'est pas de contester la marche des femmes de 1789, c'est pas de contester la révolution, c'est de savoir où on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce qui me frappe, c'est de voir que dans cette NUPES, aujourd'hui, le Parti Socialiste et Olivier Faure en premier ne sait pas quelle position prendre. Il fait un commentaire sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, alors que la vraie position à prendre, l'esprit dans lequel Jean-Luc Mélenchon a lancé cette marche, eh bien, il l'a dit, c'est dans un esprit de révolutionnaire. Bon, est-ce que le Parti Socialiste, après la Révolution, le 19e siècle, Jaurès, Blum, François Mitterrand, Lionel Jospin, François Hollande, étaient révolutionnaires ? Non. Donc il y a un moment où il faut que le Parti Socialiste, au lieu de commenter les décisions et les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, doit affirmer sa position. Et moi, pour moi, elle est très claire ce matin, c'est que, et je l'ai dit dans mon tweet, c'est pas à Jean-Luc Mélenchon de faire mieux, c'est au Parti Socialiste de faire mieux. Et pour faire mieux, faut tout simplement dire, on va pas aller à la marche organisée et annoncée par Jean-Luc Mélenchon, parce que ça correspond pas à l'esprit dans lequel on est. On est dans l'opposition, on conteste des décisions qui seront prises par le gouvernement, on doit proposer des choses avec un objectif, c'est de revenir un jour gouverner un pays, gouverner aussi l'Europe. C'est ça la question.
C'est ça la question pour vous. Olivier Faure fait fausse route, il commente, il n'agit pas. Stéphane Le Foll, j'ai bien compris. Mais Jean-Luc Mélenchon, le révolutionnaire, pourquoi écrit-il cela, selon vous ?
Parce que je pense qu'il le pense.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est dans cette démarche.
Il est dans cette démarche.
J'ai écrit un texte il y a 15 jours, qui est sorti dans le Huffington Post, où je le disais, de la même manière quand il est dans la logique de la désobéissance européenne, il est dans la radicalité et dans l'idée qu'on peut faire bouger totalement des sociétés, des constructions politiques, historiques, simplement parce qu'on le veut avec le peuple. Donc il est dans cet état d'esprit, il l'a déjà dit, c'est sa ligne directrice depuis le début. Et dire qu'il provoque, il provoque pas, il existe. Il prend des positions, il affirme une ligne. La vraie question qui est posée maintenant au Parti Socialiste, c'est de savoir si on est d'accord avec cette ligne. Moi, je l'ai déjà dit depuis longtemps, et on le voit aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer au niveau de la NUPES, je n'étais pas sur cette ligne politiquement. Je ne conteste pas Jean-Luc Mélenchon d'avoir une ligne. Il en a une. Ce que je conteste, c'est aujourd'hui le fait que le Parti Socialiste n'en a plus. Voilà.
Oui, et sa ligne sur cette ligne, si je puis dire.
Il est sur cette ligne, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est, vous savez, de toute façon, dans ses prises de position, dans ses prises de parole, il y a toujours cette ligne. Elle existe, tout le monde le sait. Il y a que ceux qui ne veulent pas ni écouter ni regarder, et puis qui s'effarouchent pour un tweet et qui disent ah bah non, tu pourrais faire mieux. Non, Jean-Luc Mélenchon fait du Jean-Luc Mélenchon.
Bien,
c'est au Parti socialiste de faire. Du socialisme.
Claude Quettel est avec nous, historien, spécialiste de la Révolution française. Bonjour Claude Quettel.
Bonjour Monsieur Bourdin.
Auteur de « Croix ou meurs, histoire incorrecte de la Révolution » aux éditions Taillandier-Perrin. Que s'est-il passé les 5 et 6 octobre 1789, Claude Quettel?
Alors, l'automne 89 est un peu un tournant de la Révolution qui piétine. C'est l'anarchie dans Paris, sur fond de disette. Il y a d'énormes queues devant les boulangeries. Et dans cet esprit-là, les femmes de la Halle se réunissent très très tôt, enfin s'assemblent très très tôt au petit matin du lundi 5 octobre 1789 devant l'hôtel de ville pour une marche sur Versailles. Pourquoi une marche sur Versailles? Parce qu'il y a le roi, mais il y a aussi l'Assemblée. Qui s'est proclamé national.
Oui.
Et dans cette assemblée, il y a déjà une frange qu'on ne va pas encore appeler de gauche, mais c'est une question de moi. Donc appelons-la déjà de gauche, qui œuvre pour finalement qu'on oblige le roi à aller à Paris, de ne plus être au très relatif abri de Versailles. Donc cette marche qui va commencer des femmes qui réclament du pain, 5 à 6 000 femmes tout de même, hein, qui marchent sous une pluie battante, qui donc sont décidées à réclamer, qui veulent du pain, qui veulent voir le roi, mais derrière cela, il y a, alors, on ne va pas dire complot, vous savez, je ne crois pas beaucoup au spontanisme des foules, mais pas forcément non plus pour autant au complot, mais il y a tout de même quelques des agitateurs qui, derrière cette marche qu'on pourrait appeler de la faim, veulent que le roi revienne à Paris pour qu'il soit en quelque sorte prisonnier de la ville et qu'il ne soit plus à Versailles. Donc cette foule de femmes arrive le soir à Versailles, crottée, fatiguée, demande à voir entre dans l'assemblée, demande à voir le roi, une députation des femmes va voir le roi le soir, qui va promettre du pain, évidemment. Mais tout se gâche, la nuit tombe, on fait des feux, on danse, on boit beaucoup pendant la Révolution française. Et à l'aube du 6, une bande d'émeutiers force les grilles, fait irruption dans le palais de Versailles, essaie de forcer les portes de l'appartement de la reine, un mort parmi les manifestants, deux parmi les gardes du corps. En fait, cette marche des femmes qui, au départ, n'avaient pas forcément des allures d'émeute, prend soudain son caractère véritable, qui est bel et bien celui d'une émeute. Et donc, au matin du 6 octobre, le roi et la reine doivent paraître au balcon, et à leur corps défendant, et j'insiste là-dessus, à leur corps défendant, le roi n'était pas très stupide au point de comprendre qu'il allait être prisonnier à Paris. Mais il doit promettre de rejoindre Paris, ce qui se fait l'après-midi même, un cortège extraordinaire avec, on ne voit pas ça beaucoup sur les gravures révolutionnaires et pour cause, sauf sur les gravures britanniques, qui elles ne disent pas, racontent pas tout à fait la même révolution. Oui. On voit les deux têtes des gardes du corps qui ont été coupées et qui sont promenées au bout d'une pique. Et donc, dans ce cortège énorme qui rejoint la ville de Paris, il y a qu'on ramène à Paris le boulanger, la boulangère et le petit Mitron, mais encore une fois, derrière cette fin authentique du peuple de Paris, je préfère la population de Paris, le mot peuple me paraît toujours un peu connoté, mais donc là, la révolution va changer de visage parce que le roi se retrouve donc à Paris, prisonnier de sa bonne ville de Paris, mais dans les semaines qui vont suivre, l'Assemblée va devoir et également rejoindre Paris, et ça va tout changer parce qu'elle va être désormais sous influence et sous le contrôle un peu des agitateurs qui sont là depuis le début de la Révolution.
Merci Claude Quettel. Croix ou meurt ? On sait tout sur ce qui s'est passé les 5 et 6 octobre, histoire incorrecte de la Révolution. Je vous invite à lire ce livre aux éditions Taillandier-Perrin. Un mot, Stéphane Le Foll, vous entendez l'histoire. Cette histoire passionnante, dites-moi, Jean-Luc Mélenchon la connaît.
Il la connaît et il a fait une erreur. Puisque dans son deuxième tweet où il vient de retweeter en disant que cette marche avait fait zéro mort. Je laisse l'historien qui vient de s'exprimer corriger Jean-Luc Mélenchon. Et deuxième point, les parties de l'automne dans la Révolution ont toujours été des moments extrêmement importants. J'en veux encore pour preuve qu'en septembre, les massacres de septembre et puis après Valmy sont toujours des moments où on va basculer de l'été vers l'hiver avec l'automne. Et ça a été des moments politiquement importants avec l'élection à la Convention, des montagnards et ce que disait ce Quettel tout de suite va se confirmer ensuite. Tout ça pour dire que dans ce débat, vous voyez bien, l'esprit dans lequel se situe Jean-Luc Mélenchon, et on ne peut pas lui reprocher de trahir ce qu'il pense. Il dit depuis le début et depuis longtemps ce qu'il pense. Maintenant, la seule question qui est posée en responsabilité politique, là, en dehors de la question de l'histoire, c'est d'avoir aussi une position politique. Le Parti Socialiste aujourd'hui, chacun peut le regarder, n'a pas de position politique. Il est dans le suivisme de Jean-Luc Mélenchon. La preuve, c'est qu'on commente le tweet de Jean-Luc Mélenchon, puis deuxièmement, on dit on va aller manifester pacifiquement. Personne n'a quand même imaginé qu'il allait y avoir une manifestation qui ressemblerait à celle qui est évoquée par Jean-Luc Mélenchon. Donc merci. Tout ça, nécessite une clarification, c'est absolument nécessaire.
Merci Stéphane Le Foll, merci Claude Quettel, Stéphane Le Foll. Encore une fois passionnant, nous savons, nous essayons de comprendre. Merci à vous tous de participer, nous nous retrouverons lundi. En attendant, André Bercoff.